Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Comment ça va, TH ?
Ça va très bien, et toi ?
Un peu fatigué, mais ça va. Donc, nous allons commencer cette semaine d'actualité assez pauvre, il faut le dire quand même. Semaine pré-E3 oblige, n'est-ce pas ? Par des news sur Hideo Kojima et personnellement le jeu que j'attends le plus de la part de Konami, à savoir Zone of the Enders 3. Alors, jusqu'à maintenant, c'était une rumeur qui revenait, qui repartait, qui revenait. Et nous autres fans de Zone of the Enders, on était un peu comme les fans de Shenmue, tu vois, les mecs qui ont arrêté d'attendre depuis longtemps parce que bon, voilà, quoi, on avait arrêté d'espérer. Et puis là, cette semaine, on a eu une petite surprise comme ça. Alors, durant une conférence, Kojima donc a confirmé que un projet se nommant Enders Project était en préparation. Donc, pour l'instant, ce n'est pas confirmé officiellement que c'est Zone of the Enders 3. Et on espère que ça va se faire.
Non, il a bien annoncé que c'était un nouveau Zone of the Enders.
Et, ah d'accord.
Et sinon,
autant pour moi.
Voilà. Et il y a les deux premiers volets de Zone of the Enders HD Collection qui arriveront à la fin de l'année sur PS3, Xbox 360 et PS Vita. Et je vous les conseille vraiment parce que c'est des très très bons jeux. Je les avais sur PS2 à l'époque et c'est vraiment des très bons jeux.
Ouais. Enfin, dans le cas de les Silent Hill, je crois que les remakes ils sont pas super réussis. Hein. Il paraît, d'après les retours que j'ai eus sur Silent Hill, ils sont un peu foirés. Hein. Ils ont rajouté des bugs et tout.
Et bah, il y a justement, en parlant de Silent Hill HD, la personne qui s'est chargée de. Le studio qui s'est chargé de développer le Silent Hill HD, c'est-à-dire que ce n'est pas Konami, puisqu'il a été développé par un autre studio dont je ne me rappelle plus le nom. Et ils ont annoncé que, en fait, Konami leur avait envoyé les codes sources de l'époque, mais pas la version finale des codes sources, une version antérieure. Qui comportait encore des bugs du jeu, et donc en fait eux ce qu'ils ont dû faire c'est qu'ils ont dû corriger les bugs de Konami à l'époque plus leurs bugs à eux-mêmes, ce qui a fait que le jeu avait beaucoup de qu'il y avait eu beaucoup de bugs.
Ouais, bah enfin ça me dépasse venant de Konami qu'ils fassent des erreurs comme ça, je sais pas, envoyer un code source buggé Putain, bravo Konami. Bon, ensuite à propos de bugs justement, hein. Merci à TH pour cette superbe transition. Il y a un patch qui va être bientôt publié pour The Elder Scrolls Skyrim. Et je crois, mon cher ATH, qu'il y a une petite surprise à l'intérieur.
Petite surprise à l'intérieur, c'est que désormais, on pourra donc chevaucher sa monture et se battre. Une grande nouvelle pour tous les possesseurs de ce jeu.
Alors, si je voulais ironiser, je dirais que les gars de Bethesda ont enfin joué à Mountain Blade, qui est un RPG gestion stratégie où tu peux faire du combat à cheval. Donc bravo, bravo Bethesda, vous avez réussi à faire ce qu'un petit studio indé a fait sur son jeu. Bon, plus sérieusement, bon, en tout cas, je trouve ça toujours bien de que ça soit fourni gratuitement. Parce que, surtout venant de Bethesda, hein, on sait que, notamment sur Oblivion, les DLC, il fallait payer les selles de cheval, c'était eux, hein. Donc,
Ah oui, ça, j'avais oublié cette petite partie des DLC pour la selle de cheval. Mais sinon, les contenus qu'ils avaient fournis, quand même, ils étaient très conséquents par rapport aux DLC qu'on a aujourd'hui. Les deux DLC les add-ons qu'on avait, c'est plus des add-ons pour moi, qu'on avait eu l'île de la folie et l'autre, la quête des neufs, je crois. Était vraiment beaucoup plus conséquente que ce qu'on a aujourd'hui. Genre aujourd'hui on a quoi, on a une heure de jeu en plus, alors que là on avait vraiment un nouveau royaume, tu vois.
Ouais. En tout cas, bon ben quoi qu'il en soit, merci à Bethesda, on va enfin pouvoir combattre sur son poney, c'est super. Ensuite, on va parler de Resident Evil. Alors qu'est-ce qui se passe avec Resident Evil, mon cher ATH?
Alors Resident Evil ou Biohazard pour les Japonais. Parce que là, c'est une news qui concerne uniquement les Japon, mais que j'ai trouvé quand même assez sympathique. C'est que, donc, il fête son 15e anniversaire. Et Capcom a décidé pour les fans de faire une attraction dans un hôpital abandonné. Avec tout ce que... Un hôpital donc qui servait en fait à des tournages de films. Pour des films japonais, des films d'horreur surtout. Donc l'attraction coûtera quand même 31 euros. Qui fait quand même assez cher l'attraction, et notre but ça sera de parcourir l'hôpital et d'arriver à la sortie, en se faisant attaquer par des zombies, des monstres dédiés à l'univers de Resident Evil. Et je sais pas si ça sera des acteurs déguisés, mais pour 31 €, j'espère que les costumes seront bien faits, quoi.
Moi, je t'avoue que vu le prix, c'est pas le genre de truc où personnellement, je préfère encore faire du JDR grandeur nature, voilà quoi.
Et à ce prix-là, je ne vous conseille non pas non plus aussi Resident Evil Opération Raccoon City, qui est une daube.
Oh, ça troll,
Ouais, bah
attention.
attends, je viens de faire le jeu.
Ah, bah, ça t'apprendra, hein. Écoute, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des tests sur le net qui avaient dit que c'était de la
Non,
merde.
mais le
Ouais,
jeu, je l'ai eu pour faire justement la version test.
ah oui, t'as eu la version test,
Donc, c'est un
hein,
jeu de merde.
oui. D'accord. Ensuite, on va parler du prochain projet du sieur Ron Gilbert. Alors, pour les ignares dans la salle, qui c'est Ron Gilbert? Bah, entre autres, c'est le papa de Monkey Island. Et oui, il avait travaillé dessus notamment avec un certain Tim Schafer à l'époque. Et il a annoncé son prochain jeu. Ce sera un jeu édité par Sega. Et j'ai envie de dire bravo Sega parce que pour éditer un jeu comme ça, vous, alors en gros, ça sera un jeu de plateforme, action, aventure avec un zeste d'énigme, n'est-ce pas? Bon, ok, on n'a pas vu grand chose dessus, mis à part une courte vidéo de gameplay d'une minute. Mais en tout cas, le peu que j'en ai vu, moi, la direction artistique m'attire énormément. Et en tout cas, ça a l'air très, très, très chouette. J'attends vraiment, vraiment de voir ce que ça va donner. Ça sortira sur PC, PS3, Xbox 360 en début d'année prochaine.
Et en téléchargement.
Ouais, et téléchargement uniquement, merci de le préciser. Maintenant, on va parler d'un projet de film, n'est-ce pas? C'était un peu une arlésienne, ça aussi, qu'on attend depuis pas mal de temps. C'est le film de Shadow of the Colossus. Et apparemment, ATH, je crois qu'ils auraient trouvé un réalisateur.
Oui, donc qu'on attend depuis pas mal de temps, en fait, moi non, parce que on va dire que les films adaptés de jeux vidéo, c'est pas trop ça. Mais oui, en fait, le film Shadow of the Colossus, il trouve un réalisateur donc du nom de Joshua Trank, je sais pas comment ça se prononce, c'est peut-être un américain, donc Trank, tranquille, je sais pas. Donc c'est la personne qui a réalisé récemment Chronicles, le film de super-héros qui est sorti au cinéma récemment.
Je crois que Morden avait fait, il me semble,
Bah oui, il avait fait un
ouais, un
point,
pop culture.
voilà, sur ce film que.
Bah justement, c'est un film qui est pas, pour le coup, vu ce que, bon, je l'ai pas encore vu malheureusement parce que j'ai pas le temps, mais ce que m'en avait dit Morden, en tout cas, c'était pas un film de super-héros comme les autres, quoi. Il y avait vraiment autre chose, quoi. Donc c'est, pour moi, c'est bon signe, je pense.
Bah après, j'espère que qu'il fera un... que le film il rendra honneur aux jeux vidéo. Si... Parce qu'en fait, lui-même, il est fan du jeu vidéo, et c'est lui-même qui a contacté Sony pour développer ce jeu vidéo, parce qu'il savait il avait entendu des échos comme quoi Sony voulait, parce que c'est Sony qui voulait à la base développer ce film, et donc ce qu'il a, lui, il s'est senti intéressé, il a contacté Sony, mais le problème, c'est que le bonhomme, il travaille sur déjà beaucoup de projets, par exemple un reboot des 4 Fantastiques. Un Spider-Man, en fait, c'est plutôt un spin-off qui est consacré à Venom, et aussi une adaptation graphique novel de Red Star. Ça fait pas mal de temps, enfin, ça fait pas mal de projets, et donc le film, il devrait pas sortir d'ici 1 an ou 2, quoi. Si tous ces projets se concrétisent, il y aurait pas mal de taf, quoi, pour qu'on voie ce film apparaître. Et aussi une chose importante que j'ai envie de souligner, c'est que le scénariste Justin Marks aurait été écarté du projet. Donc Justin Marks, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a fait le scénario du film Street Fighter, La Légende de Chun-Li.
C'est très rassurant.
Donc il n'est plus dans le film, donc tant mieux.
Oui, tant mieux. Ouais, surtout que la légende de Chun-Li, putain, c'est. Ah ouais, quand même, c'est.
Bah même le premier Street Fighter avec Van Damme.
Ouais, mais au moins, tu vois, le premier Street Fighter avec Van Damme, il était drôle, tu vois. C'était tellement ridicule que ça en devenait
Ah
drôle.
mais moi je l'ai bien aimé, le premier avec Van Damme comme nanar, et c'était un très bon nanar. Et je critique pas le film, parce que quand j'étais petit, il passait sur TF1 toutes les semaines, je le regardais, mais voilà là, quoi.
Alors que si tu veux, la légende de Chun-Li, là c'est même pas un nanar quoi, c'est juste un mauvais film quoi. Et voilà. D'ailleurs, un film qui aurait va mieux valu annuler. Ouh, transition super, n'est-ce pas? Parce que on va parler des jeux annulés sur cette chaîne. Alors c'est quel site qui a publié cette liste, mon cher ATH?
Alors, c'est le site Game Informer, donc nos confrères anglophones. Ils ont donc dévoilé une liste de tous les jeux qui étaient annulés, qui étaient officiellement annulés. Donc, dedans, dans la liste que je vais que je vais vous dévoiler, elle est assez longue. Il y a des jeux qui ont été dévoilés à la presse, et même on a eu des vidéos à l'E3 qui ont été annulées dedans. Et il y a des jeux dont on n'avait jamais entendu parler. Donc je vais vous dévoiler la liste. Donc alors la liste est assez longue quand même, je vous préviens. Et dedans, surtout Tyran, tu me laisses finir, tu ne m'interromps pas jusqu'à ce que j'ai fini, d'accord?
Non, non, ça
Là
va, t'inquiète.
parce que je vais dire un truc, mais tu me laisses pas, et tu m'interromps pas jusqu'à ce que tu dises que c'est bon, tu peux commenter.
Bon, si vous voulez, monsieur, je vous en prie.
Alors Today to Vegas, The Agency Covert Ops, Alhambra, Ion Guard, Action Overdrive, Bronx, Brinks of Extinction, Cipher Complex, Code Arms Assault, The Dark Knight, Dead or Alive, Code Chronos, Dirty Harry, Duke Nukem Forever, Elven, Ender's Game Battle Room, Endless Saga MMO, et Dunphy, Fight on 45, Gear of War Exile, Gotham by Castlight, Halo Chronicles, Halo MMO, Harker, Heavenly Sword 2, Health, Huxley, Indiana Jones and the Staff of King, Killing Day, The Lord of the Ring, The White Council, Match Warrior Online, Mega Man Universe, Metapocalypse, Dead Game, Milo, The Office, Pirates of the Caribbean, Armada of the Damned, Redemption, Bumpy Trot 2, Civilization, Severity, Shadow Clan, CD in Fallujah, Star Wars Battlefront 3, Sundown, Survivor, This is Vegas, Tiberium, Totem Urban Race, Hugo Vault, Voodoo Knight, Wardeville, et les MMO annulés sur Xbox 360, c'est Final Fantasy XIV, Age of Conan, Star Trek Online, APP, donc Alpine Bulletin. Tu as quelque chose à dire?
Bon, la seule chose qui m'a marqué là-dedans, c'est qu'ils disent que Duke Nukem Forever a été annulé alors que il était là, mais sinon,
Ouais, bah tout à fait, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas m'interrompre, parce que ça c'est moi qui l'ai rajouté, parce que ce jeu-là n'aurait jamais dû sortir en fait.
d'accord. Merci ton intervention,
C'était le petit
TH.
troll.
D'accord, merci. Ouais, comment tu veux enchaîner sur ça après?
Bah.
La semaine prochaine, enfin, la semaine prochaine, d'accord. Ah, il m'a perturbé là. La semaine dernière, donc, on vous parlait de. Ouais, non, j'ajoute rien parce que là, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? La semaine dernière, on vous parlait des soucis qu'a rencontré Diablo 3, n'est-ce pas? Et j'ai envie de dire rien d'étonnant parce que on a eu les chiffres des ventes cette semaine, n'est-ce pas? Et on a appris que le jeu s'est tout simplement vendu à 3,5 millions de copies en 24 heures et qu'aujourd'hui on en est à 6,3 millions de joueurs sur Battle.net et Diablo 3 donc. Et bon, voilà quoi, c'est en gros, c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, je crois, lancement de l'histoire sur PC, quoi. Tout simplement.
Donc Blizzard s'est fait, c'est Blizzard s'est fait beaucoup d'argent.
Alors ouais, bah, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Rien d'étonnant, en fait, qu'il y ait des soucis de connexion. En même temps, on le soupçonnait la semaine dernière que le jeu avait dû avoir un énorme succès, mais là, vraiment. Je veux dire, 3,5 millions de copies vendues en Day One sur PC. Pour les consoles, ça paraît peut-être pas énorme, mais sur PC, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme, quoi. Donc, parfois, bah, bravo Blizzard. Ouais, maintenant, faudra peut-être bosser pour régler les problèmes, quoi. C'est tout.
D'ailleurs, pour revenir à Diablo 3, toi, tu ne l'as pas acheté.
Non, moi, il faut une connexion permanente, et comme j'ai dit, ce genre de DRM, ben, s'il y en a, moi, j'achète pas le jeu. C'est tout, ça m'intéresse pas.
Voilà, donc un militant.
Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, pour terminer cette semaine d'actualité, on va parler d'Electronic Arts. Electronic Arts qui, avec Origin, a créé une mini polémique hein, dans le monde du jeu indépendant. Et pourquoi ils ont créé une mini polémique? C'est tout simplement parce que, bon, ils ont bien vu que Kickstarter, tu vois, il y avait des sous à se faire, il y avait quelque chose, quoi. Il y a du buzz autour de ça, tout le monde en parle. Et du coup, ils se sont dit, bah écoute, nous, on va attirer les indés sur notre site. Et sur notre plateforme de jeu, donc Origin, et on va offrir une solution au studio indépendant qui consiste à dire que durant une certaine période, les studios indépendants n'auront pas de frais sur la plateforme Origin, et comme ça, eh ben écoute, les studios indés vont venir chez nous. Alors pour le coup, ça a pas mal marché parce qu'on a notamment appris que certains projets dont je vous avais parlé, notamment Westland 2, donc qui est vraiment l'un des gros gros projets qui a marché récemment sur Kickstarter, allait sortir sur Origin. Et du coup, ça a créé pas mal de remous chez ceux qui ont financé ces projets-là. Bon, moi je vous avoue que je suis assez partagé sur la question. Parce que même si je peux comprendre que quelque part ça, à quelqu'un tu vois qui a une démarche militante tu vois vis-à-vis du jeu indé et surtout c'est un projet comme Westland où le mec pour se faire mousser un peu a pas mal tapé sur Electronic Arts enfin pas Electronic Arts en particulier mais Brian Fargo durant sa campagne il a très clairement tapé à mort sur les éditeurs. Et ça fait un peu sourire, tu vois, qu'ils viennent après manger la main dans la main d'Electronic Arts comme ça. Ça fait un peu sourire, tu vois. Donc je peux comprendre à la limite que ça fasse grincer certaines personnes qui ont investi dans ce projet de manière militante, quoi, si tu veux. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça toujours bien, tu vois, qu'il n'y ait pas genre une espèce d'hégémonie de Steam sur le monde de la distribution dématérialisée. Et je trouve ça toujours bien que des projets, fussent-ils indépendants, sortent sur Steam, mais aussi sur Origins, mais aussi sur Golem Games, bref, sur le plus de plateformes possibles. Et bref, moi je pense au final que cette polémique-là, bon, c'est un peu une polémique, bon, voilà quoi, faut toute proportion gardée, faut un peu calmer le jeu, quoi. C'est pas comme si le jeu sortait en exclusivité sur Origin. Là, franchement, effectivement, ça aurait été scandaleux. Le jeu va sortir sur toutes les plateformes, et moi, ma foi, au final, je trouve ça très bien.
Bah c'est bien surtout que ça permet de diversifier l'offre en fait.
Ouais.
Que voilà, que comme tu avais dit dans un précédent podcast, que c'est pas bien qu'un seul acteur ait le monopole du marché, même si Steam ils sont très agressifs avec leur prix. Des fois je vois des prix des jeux à 4 € des licences, des sagas à 10 €. Je vois qu'ils sont vraiment Steam, ils sont vraiment très très agressifs sur le prix. Et c'est bien qu'il y ait de la diversité en face, parce que s'ils ont tout le monopole, après ils pourraient se permettre des choses qu'il n'y aurait pas. Enfin, qui ont des choses un peu, tu vois, par exemple, c'est comme à l'époque quand il y avait que Microsoft qui était sur le marché du hardware de PC.
Ouais.
Voilà, c'est bien que là il y a plus d'offres, comme ça les gens pourraient plus se retrouver et les prix diminueront.
D'ailleurs, tu mentionnes Microsoft, mais justement, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu Steam à l'époque où Microsoft s'est lancé sur le marché console, je rappelle que quand même, Microsoft, quand ils ont lancé leur Game for Windows Live sur PC, là, c'était un peu beaucoup, enfin d'ailleurs, ça l'est toujours, mais je troll, mais c'était un peu beaucoup de la merde, n'est-ce
Bah tu as
pas?
le droit de troller, hein.
Quoique, bon, je sais pas si c'est du troll, hein, que dire que Game for Windows Live c'est de la merde, ça me paraîtrait un constat objectif, mais... Et ils avaient essayé à l'époque, Microsoft n'empêche d'imposer pas mal de choses, et je me dis, tu vois, s'il y avait eu que Microsoft à l'époque, on aurait eu l'air très con sur PC, hein, parce que ils ont vraiment essayé de cadenasser le jeu sur PC, et voilà quoi, je pense que c'est toujours bon qu'il y ait plusieurs acteurs, même si Steam, on est d'accord, ça reste une boîte indépendante. C'est une grosse boîte indépendante, mais c'est une boîte indépendante. Mais justement, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que Steam est une boîte indépendante que c'est des gentils. Voilà, non, ça veut juste dire qu'ils sont indépendants financièrement, ils sont pas en bourse, voilà, ils sont vraiment indépendants. Mais voilà, c'est pas des business non plus, quoi. Donc c'est toujours bien. Moi, je trouve que voilà, il y a plusieurs acteurs. Du moment que ce n'est pas exclusif à Origin, c'est du tout bon pour moi. Voilà, c'est tout pour l'actualité cette semaine. Et oui, c'était ma foi assez court, mais bon.
On s'excuse parce que à cause de l'E3, on a dû racler les fonds de tiroir, moi et Tyran, pour vous proposer un simili de contenu en fait.
Ouais. Surtout que bon, là, je veux dire, on aurait pu faire un podcast, bon, rumeur pré-3, etc. Mais je vous avoue que à titre personnel, je suis pas super fan des rumeurs. Je préfère avoir du concret. Donc bon, on a fait un podcast classique. Et pour la semaine prochaine, de toute façon, vous en faites pas. Bon, il n'y aura pas de podcast au sens habituel, c'est-à-dire il ne sortira pas le mardi, je pense. Que bon, la nuit va être longue, n'est-ce pas? En gros, il y aura un podcast pour chaque conférence. On va essayer d'en faire un pour chaque conférence comme l'année dernière. Et on croise les doigts pour que les conférences ne soient pas trop chiantes, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors, c'est le moment de passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, cette semaine, c'est un point and click fait par ce merveilleux studio qui s'appelle Amanita Design. Et ce jeu, c'est Botanicula. Botanicula. Botanicula, pour vous présenter un peu, donc comme je vous le disais, c'est un point and click. Un point and click, tout ce qu'il y a de plus classique, au demeurant. Du moins dans, comment dire, dans ses mécaniques. Parce que, dans la forme, en tout cas, ATH, il me semble que tu avais vu des images du jeu il y a un moment. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un point and click qui a quand même une patte. Une identité graphique assez forte, quoi.
Oui, c'est j'avais beaucoup apprécié la patte graphique qui me rappelait un ancien jeu du même studio en fait, qui était une patte. On avait dit, j'avais dit que même j'avais même dit que c'était une patte très. Quel est le nom du studio déjà qui l'a développé en fait? Je m'en rappelle plus.
Amanita Design.
Et Meta Design, ils avaient développé quoi avant?
Ils avaient développé Machinarium, Samorost et d'autres jeux dont j'ai oublié le nom.
Voilà, bah, moi justement j'avais dit que c'était un design très machinarien, parce que ça
Ouais.
faisait vraiment beaucoup penser à leur premier jeu, avec des différences, mais il y avait ce cachet qui ont ce studio en fait, et qu'on retrouvait dans ce jeu-là.
Ouais. Alors, pour vous présenter un peu le scénar, parce que oui, il y a un scénar, c'est très simpliste, très simple, parce que simpliste, ça fait un peu péjoratif, mais pas du tout. Je veux absolument pas être très péjoratif, c'est un scénario simple, mais très enchanteur, j'ai envie de dire. Alors, en gros, le jeu commence sur une scène où il y a une graine qui tombe dans le sol, il y a un arbre qui commence à pousser. Et cet arbre, bon, il grandit, et à un moment donné, bon voilà, il y a d'autres graines qui commencent à sortir de cet arbre. Et là, tu as une espèce petite entité sombre qui monte dans l'arbre, tu vois, et qui commence à bouffer toutes les graines de l'arbre. Et apparemment, cette entité, si tu veux, elle se nourrit de la force vitale de l'arbre, de sa sève, et elle cherche vraiment à bouffer toutes les graines. Et là, hop, t'as in extremis, t'as une graine qui réussit à s'échapper et qui tombe dans un arbre voisin. Et elle tombe exactement, il y a une espèce, alors je sais pas ce que c'est exactement comme, c'est une espèce de gland ou je sais pas, enfin, c'est un petit personnage qui absorbe la graine. Et en gros, sa mission à lui et aux amis qui vont l'accompagner. Alors en gros, il a plusieurs compagnons de route. Il y a une espèce de champignon, etc. Et sa mission, ça va être en gros d'amener cette petite graine à maturation, enfin de la protéger de cette entité qui commence à envahir les alentours et de faire grandir un nouvel arbre. Alors comme ça, bon, c'est un peu comme dans Machinarium justement dont tu parlais juste avant. C'est un scénario vraiment assez enfantin, j'ai envie de dire, dans une ambiance qui nous fait retomber en enfance, quoi. C'est vraiment un tout petit groupe de compagnons qui vont. Ça fait penser, si tu veux, au vieux film Disney, tu vois, où c'est une histoire toute simple, mais il y a tellement de magie qui s'en dégage que t'es immédiatement dedans, quoi. Et t'es d'autant plus dedans, si tu veux, que, comme tu le soulignais, il y a vraiment une patte graphique. Mais là où j'aimerais souligner une petite nuance par rapport à ce que tu as dit, Azéa, c'est effectivement, tu ressens qu'il y a la patte graphique à Manita Design, c'est clair. Mais quand même, je trouve qu'il y a vraiment quelques différences au niveau du rendu par rapport à Machinarium. Je veux dire, Machinarium, mine de rien, c'était un jeu, si tu veux. Tu voyais que c'était un jeu qui racontait l'histoire d'un robot, quoi. C'était des couleurs assez marron, ocre. Enfin, c'était assez sombre. Tu sentais l'huile qui dégoulinait des robots, tu vois. Alors que là, au contraire, Botanicula, c'est vraiment un jeu de couleurs chatoyantes, un espèce de rendu épuré qui est vraiment très très différent de Machinarium. À chaque fois que tu joues à ce jeu, tu respires l'air de la forêt, t'es dedans, quoi. Aussi, un point que j'aimerais souligner par rapport à ce jeu et qui renforce réellement l'ambiance, c'est la bande son. Alors, c'est vraiment une bande son assez spéciale parce que c'est une bande son en fait qui est faite pratiquement exclusivement à la voix. C'est-à-dire que à chaque morceau, bon, il y a des instruments, hein, mais l'instrument principal, j'ai envie de dire, de cette bande son, c'est vraiment la voix. C'est une bande son signée par un studio qui s'appelle DVA et je vous incite vraiment à l'écouter parce qu'elle est disponible en écoute libre sur le site. Alors je vous donne l'adresse, c'est sur le site dva2.bandcamp.com/album/botanicula. C'est disponible en écoute libre et vous pouvez acheter l'album. Pour, je crois, c'est 5 € ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est vraiment pas grand-chose. Et franchement, cette bande-son, pour moi, ça, avec la patte graphique, c'est ce qui fait vraiment que ce jeu a une identité absolument unique.
Et pour revenir à la bande son, excuse-moi de te couper, mais elle est interactive aussi, non? Apparemment, il y a quelques passages où à la souris, on peut déclencher des petites notes de musique ou des bruitages sonores.
Oui, ça fait partie des énigmes, mais quand même la bande son reste assez voilà. Comment dire? Par exemple, il y a un passage, il y a une énigme où t'as des espèces de plantes qui font des sons, tu vois en fait. Et en gros, il va falloir appuyer dessus pour faire des sons, pour faire venir leurs copines, tu vois, qui attirées par le son vont revenir. Et à la fin, ça va faire une espèce de morceau. Tu vois, en fait, au fur et à mesure, ça va composer un morceau, et à la fin, ça va vraiment faire une espèce d'orchestre qui chante de concert, tu vois, et c'est absolument, ça déchire, quoi. Et bon, pour revenir un peu au cœur du jeu, quand même, à savoir toute la partie point and click, alors honnêtement, c'est pas un jeu qui est d'une originalité débordante, hein. Il y a quelques très bonnes idées dedans. Notamment, j'ai apprécié le fait, tu vois, qu'il ponctue l'aventure de petites phases de gameplay qui n'ont pas grand-chose à voir avec le point and click. Genre, à un moment donné, t'as une simili-phase de shoot, t'as une espèce de mini-game où t'as une espèce de jeu de handball où tu vas devoir gagner un match pour récupérer un élément essentiel à l'une des énigmes du jeu. Et tu vois, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que même si fondamentalement ce jeu n'a vraiment rien inventé sur plan du point and click, ils ont ponctué comme ça, tu vois, de petites idées de gameplay qui ont fait que voilà, tu t'ennuies jamais. C'est pas non plus, tu vois, l'un de ces point and click où t'as des énigmes absolument tordues. Non, non, c'est des énigmes vraiment, enfin, c'est très logique. Et t'es jamais bloqué très très longtemps. C'est pas non plus d'une facilité déconcertante. Notamment grâce à petite précision par rapport à Machinarium. Dans Machinarium, il y avait une espèce de système d'indices. C'était des indices, tu sais, assez imagés et tout. T'avais une petite bulle qui apparaissait où le personnage te donnait un indice, tu vois, sur comment il fallait résoudre l'énigme. Ça, dans Botanicula, ça a complètement disparu. Du coup, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que les énigmes sont peut-être un peu plus simples que dans Machinarium. Mais du coup, comme il n'y a pas d'aide, tu passes à peu près autant de temps à essayer de résoudre les énigmes, quoi. Mais du coup, je pense que ceux qui n'avaient pas utilisé les aides dans Machinarium seront peut-être trouveront peut-être le jeu un petit peu trop facile, du coup.
Et le jeu, il s'étale sur combien de temps, en vrai?
Alors ça, c'est vraiment c'est le point faible du jeu, j'ai envie de dire. C'est le jeu, il fait allez, 4 heures à tout casser, quoi. Je l'ai fini vraiment en une soirée. J'ai fini dimanche
Comme un
soir,
geek.
là. Enfin voilà quoi, c'est comme les vieux jeux de l'époque où tu sais, les jeux tu les finissais en un après-midi parce que t'avais pas de sauvegarde quoi.
Par exemple, Street of Rage.
On pourra lui faire ce reproche-là, mais je veux dire, le jeu est t'es tellement dedans en fait que franchement, je trouve que ce serait dommage de passer à côté de ce jeu-là, tellement qu'il y a une magie, tellement t'es dedans quoi. C'est vraiment une ambiance unique et rien que pour ça, je vous le
Et
recommande.
est-ce qu'il y aurait d'autres points noirs que tu voudrais souligner qui seraient importants pour quelqu'un qui voudrait faire l'aventure? Il y aura d'autres Est-ce qu'il y a d'autres points noirs que tu as trouvé dans le jeu? Des trucs qui t'ont gêné?
Franchement, non. Moi, les seuls trucs qui m'ont gêné, je le dis, c'est vraiment. C'est peut-être. Bon, les énigmes sont peut-être un peu trop faciles, effectivement. C'est vraiment si on voulait pinailler. C'est peut-être un peu, elles sont peut-être un peu trop faciles à résoudre. Le jeu est vraiment trop court, ça c'est sûr. La fin est vraiment abrupte aussi. Mais bon, le reste, c'est vraiment tellement bien raconté. T'as ces petits personnages là qui font des petits bruits et tout. Enfin, vraiment, ils se dégagent une identité de ce jeu, quoi. Et j'ai envie de dire, le gameplay est pas complexe, mais voilà, tu prends plaisir à résoudre des énigmes.
Et tu parlais de la fin qui t'a déçu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe enfin sans spoiler bien sûr, mais c'est quoi la fin est arrivée trop rapidement, y a un...
Bah, je trouve qu'elle est vraiment amenée trop rapidement, quoi. C'est pas tellement, tu vois, que. Enfin, elle m'a pas frustré, mais je trouve qu'elle est amenée un peu trop. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il y aurait encore un petit passage après, tu vois, au moins. Et elle arrivait comme ça et j'ai été un peu bon. Voilà, ça m'a un peu laissé sur ma faim, justement. Voilà.
Bah je sais pas en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les fins là, ils nous foirent en ce moment beaucoup de fins.
Bah, je dirais pas qu'elle est foirée, hein. Elle est dans le ton du jeu, quoi. C'est juste qu'elle arrive un peu trop rapidement, quoi. C'est tout. Mais bon, c'est pas non plus une fin scandaleuse, quoi. Faut pas exagérer non plus, quoi.
D'accord.
Bon, voilà. C'est tout pour cette semaine, pour notre jeu du moment. On va passer à un point culture lui aussi très enchanteur, parce que je vais vous parler là d'une série. Vraiment, alors je vous le dis d'abord, c'est une série qui m'a fait chialer tout le long, alors, mais vraiment, c'est une série qui s'appelle Aria, et c'est un anime japonais, et franchement, ça va, je pense, rester pour moi un anime qui va faire date. Présenter un peu Aria, c'est une adaptation d'un manga signé par une femme qui s'appelle Kozue Amano. En fait, c'est une adaptation de deux mangas, parce que il faut savoir que Kozue Amano, quand elle a fait ce manga-là, elle l'a fait en deux parties. Donc, tu as la préquelle qui s'appelle Aqua, qui est en deux tomes, et tu as la séquelle, donc qui est vraiment le gros du manga, qui là est en 12 tomes, qui s'appelle Aria. Et donc, Aria est une série de 54 épisodes, divisée en 3 saisons et 2 OAV. C'est un espèce de mélange de tranches de vie. Ça raconte le quotidien. C'est aussi du fantastique. Je vous assure, dans cette série, il y a des épisodes où tu sens, il y a une espèce, tu vois, de, comment dire, de pâte ghibliesque. Tu vois, je sais pas si Miyazaki-esque, si je puis dire. C'est t'es transporté dans un autre monde. Il y a des éléments surnaturels qui se passent. Et vraiment, c'est absolument magnifique. C'est aussi de la science-fiction parce que ça se passe. Je sais plus si c'est le 23e siècle ou le 22e siècle. En gros, ça se passe dans un futur où Mars a été colonisé. Et ils ont réussi à terraformer Mars en faisant fondre les calottes glaciaires qui se trouvaient au pôle. Et le problème, c'est que lorsque Mars a été terraformé, eh bien, il y a eu plus d'eau que prévu qui s'est mise à couler. Et en fait, d'une planète rouge, Mars s'est transformé en une planète bleue. C'est vraiment une planète où les océans dominent. Et en gros, sur cette planète-là, il y a une ville qui a été fondée, et cette ville, c'est Neo-Venezia, c'est la Nouvelle-Venise, parce qu'il faut savoir que dans le monde d'Aria, donc, Venise a disparu, hélas, au 21e siècle, sur Terre. La ville a été engloutie et donc ils ont refondé Venise sur Mars, qui s'appelle désormais Aqua. Et donc Aqua, cette planète remplie d'océans, eh bien sur Aqua tu as cette nouvelle Venise, et dans la nouvelle Venise tu as ces jeunes femmes qui ont remplacé les gondoliers de la vieille Venise et ces jeunes femmes qu'on appelle Léondines. Et donc, vous l'aurez compris, vous allez suivre une jeune fille qui rêve de devenir l'une de ces Ondines. Elle travaille pour une des grandes compagnies de Neo-Venezia. Et voilà, bienvenue sur Aria. Et en fait, comment vous dire, Aria, c'est vraiment une série très spéciale parce que c'est la volonté de l'auteur sur cette série, ça a été de faire en sorte que les gens prennent du plaisir sur des choses simples. Et vraiment, Arya, c'est une série qui vous parle du quotidien de cette jeune fille, Akari, qui, comment dire, c'est vraiment une fille qui s'émerveille de tout, qui profite de tout, et c'est un personnage super attachant que vous allez retrouver avec plaisir à chaque épisode et qui va vous donner une de ces bananes. Je veux dire, franchement, si vous êtes dépressif, c'est une série qu'il faut absolument regarder parce que je vous assure qu'elle va vous donner, elle va vous donner le sourire, elle va vous donner, voilà, y a une soif de vivre qui se dégage de cette série qui est vraiment absolument magique. Ensuite, l'un des autres points forts de cette série, c'est vraiment le dépaysement. Venise, déjà à la base, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment une ville que, voilà, quand tu penses à Venise, tu penses aux rêves, tu penses au dépaysement. Et là, en plus, déjà, t'as une reproduction de Venise. Mais en plus, c'est une reproduction de Venise assez particulière, parce que, mine de rien, c'est. Il y a de la SF, je veux dire, quand tu vois dans les cieux de Venise des vaisseaux spatiaux qui volent, tu vois, t'as une espèce de contraste comme ça entre la vieille Venise et toute cette technologie ultra moderne qui survole la ville. T'es transporté ailleurs, et en plus de ça, tu vois, comme si c'était pas assez, tu as vraiment ce côté fantastique de la série. Où la jeune Akari va, au cours de ses pérégrinations dans la ville, va assister à des espèces de phénomènes paranormaux. Elle va rencontrer des créatures très étranges, etc. Enfin, bref, moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui a grandi dans un autre pays et j'aime toujours retrouver ce dépaysement que j'ai connu dans mon enfance. Et là, j'ai retrouvé ça dans cette série, quoi. C'est une série dont où il y a une espèce de magie, de merveilleux qui se dégage. Et vraiment, c'est. Voilà, c'est une série qui m'a transporté, quoi.
Oui, tu parlais donc de Venise, et j'allais te demander, est-ce que dans cette ville de Venise, il y a un type qui s'appelle Ezio, avec une capuche, qui se balade de toi en toi?
Non, c'est pas vraiment Pour rebondir là-dessus, si tu veux, c'est vraiment une série où, voilà, y a les assassins, tout ça, voilà, c'est pas une série où tu vas trouver ça, quoi. C'est une série vraiment qui te raconte le quotidien de cette jeune Ondine qui va, donc voilà, qui est un peu comme les gondoliers, si tu veux, le rôle des Ondines, c'est vraiment de faire voyager les gens, quoi. Elle leur fait traverser la ville, elle leur fait visiter, cette ville-là. Et vraiment, en fait, si je devais résumer le thème de Arya, c'est le quotidien de Venise, quoi. Tu découvres le quotidien de Venise et par les yeux de cette jeune fille, voilà. Et comme c'est une jeune fille, si tu veux, je vais pas dire naïve, si tu veux, mais c'est vraiment une fille qui s'émerveille de tout et vraiment c'est l'empreinte de la série, quoi. C'est pas une série où tu vas avoir des meurtres, des complots, ou même dans un autre style, c'est pas une série où qui va te déprimer, quoi. Comme je le dis, c'est une série qui te donne la banane, quoi. C'est une série où tu t'émerveilles de choses simples.
Et tu parlais que la série était coupée en deux parties, c'est ça?
Alors non, c'est le manga qui est découpé en deux parties.
Voilà, et donc pour revenir à cette question, c'est est-ce que le manga c'est comme tu dis en deux parties, c'est quoi? C'est comme Dragon Ball et Dragon Ball Z ou bien c'est vraiment
Non, en fait, ça aurait pu être un seul manga. Hein. Ça aurait pu, moi, je considère que Aqua et Aria, c'est un seul manga de 14 tomes, même si elle les a appelés différemment. C'est juste que Aqua est la préquelle d'Aria, quoi. Mais concrètement, c'est vraiment, c'est toujours le même ton, la même ambiance, les mêmes thèmes. C'est juste que Aqua, c'est vraiment, c'est pour marquer le fait que Aqua et la préquelle d'Aria. Mais sinon, justement, à mon avis, c'est pour ça que dans l'anime, ils n'ont pas fait la différence. Mais du coup, en fait, la construction de l'anime est un peu différente, si tu veux, que les deux mangas. Parce que, en fait, l'anime commence en suivant le schéma narratif de Aria, donc le manga. Sauf que, en fait, elle va revenir sur ce qui s'est passé dans Aqua, donc les deux premiers tomes, via parfois des flashbacks, parfois en remaniant un peu mais vraiment très légèrement le scénar, pour genre, tu vois, des scènes qui étaient supposées être dans la préquelle, bon, du coup, elle va les mettre dans la séquelle, tu vois, parce que bon, finalement, les deux mangas se suivent tellement, si tu veux, que il y a juste à modifier certains détails, tu vois, et ça s'intègre parfaitement. Et justement, puisqu'on évoque le manga, je voulais évoquer un sujet. L'anime est vraiment très très fidèle au manga. Je veux dire, j'ai jeté un. Alors, j'ai pas lu dans l'intégralité le manga, j'ai juste lu les débuts et j'ai jeté un coup d'œil à certains passages. Et si tu veux, il y a vraiment des endroits où tu retrouves des plans. Si tu veux que tu. Il y a des plans, ils sont calqués sur le manga, tu vois. Et ça, justement, généralement, moi, c'est un truc, ça me fait un peu grincer des dents. Mais là, je trouve que l'anime a vraiment une valeur ajoutée par rapport au manga. Parce que moi, généralement, si tu veux, quand il y a des animes comme ça qui se contentent d'adapter le manga, enfin, de faire un copier-coller sans chercher à ajouter quoi que ce soit, moi j'ai tendance à dire ouais, plutôt lisez le manga, parce qu'en général le manga est généralement mieux foutu. Sauf que là, si vous voulez, comme Aria, c'est vraiment un manga dans un trip très contemplatif. Vraiment, c'est un manga où t'es supposé t'émerveiller devant Venise, quoi. Et mine de rien. D'une part, la bande son, le fait d'avoir des musiques, ça rajoute encore plus de puissance à l'œuvre, je trouve. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est dans un trip contemplatif comme celui-là, mine de rien, le fait d'avoir des couleurs, par rapport à un manga en noir et blanc, ça rajoute une espèce de puissance à l'œuvre au niveau de l'immersion. Ça décuple complètement le trip. T'es encore plus dedans.
Donc on voit que tu as plutôt bien apprécié l'univers qui reste fidèle au manga, mais moi j'ai envie de te demander une question, c'est est-ce que quand tu parles qu'on suit le quotidien de cette jeune fille, est-ce que ça s'adresse pas plutôt aux filles en fait? Parce que suivre le quotidien d'une fille, enfin je sais pas, hein, je te pose une question comme ça, tu vois.
Bah, moi, non, enfin, non, enfin,
Par rapport au thème, hein, par
par
rapport
rapport,
au.
si tu veux, c'est pas non plus un. Alors, ok, bon, il y a certains passages, les trucs de romance, etc., effectivement, mais franchement, les romans, c'est tellement anecdotique dans cette série. Je veux dire, il y a un personnage dans la série qui, voilà, où ça parle un peu de sa romance avec un autre perso, mais c'est déjà d'une. C'est pas, tu vois, c'est pas un. Ils insistent pas lourdement dessus, tu vois, c'est juste un truc, ça fait partie de ce quotidien qu'on décrit, mais c'est pas non plus. Voilà. Ensuite, je veux dire, pour moi, c'est pas tant un manga pour filles, c'est surtout un manga pour des gens qui veulent se dépayser, quoi. Parce que c'est un manga. Le thème, certes, c'est le quotidien de cette jeune fille, mais c'est le quotidien de cette jeune fille à la découverte de Venise. C'est-à-dire que, certes, tu as un casting de personnages qui est vraiment, mais alors, super attachant, et vraiment, moi, j'ai passé 54 épisodes à vraiment m'attacher. Je me suis énormément attaché à ces personnages, mais ce qui prime, à mon sens, dans cette série, le personnage principal de cette série, c'est pas, finalement, mine de rien, en fait, c'est pas tellement Akari. C'est Venise. Le personnage de la série, c'est Venise, quoi. Tu découvres Venise, t'es à fond dedans, tu découvres la Place San Marco.
San Marco.
San Marco. Moi, je t'assure, là, moi, cette série m'a donné envie d'aller à Venise, quoi. J'ai envie d'aller à la Place San Marco, de prendre un café à la Place San Marco. Franchement, c'est tiens, quoi, t'es à fond dedans. Et ce que j'ai trouvé magique, c'est que non content de te faire voyager dans la Venise actuelle, parce qu'il y a vraiment il y a des lieux, l'auteur et l'équipe qui a fait l'adaptation ont vraiment vachement bossé. tu retrouves, j'ai vérifié, tu retrouves vraiment certains lieux de Venise, quoi. Mais ils se sont pas contentés de ça. C'est ça le plus beau. Certes, il y a une partie, ils ont repris la Venise actuelle, tu vois. Mais ils ont rajouté aussi leur Venise à eux. T'as tous ces mythes autour des chats, etc. Ou pour le côté fantastique. Ou en fait, pour vous expliquer dans la série, par moment, la Akeri va rencontrer, elle va faire, je sais, on sait pas trop comment, elle va faire un voyage dans le passé, par exemple, à un moment donné. Elle va se retrouver sur, en gros, bon, non, je vais pas vous le dire parce que ça, je pense que ça serait un peu gâcher la surprise, mais en gros, elle va voir des choses du passé qui vont vraiment, qui sont vraiment très intéressantes, qui toujours nous apprennent encore plus de choses sur ce personnage qui est Néo-Vénézia et même plus généralement la planète Mars qui donc on appelle maintenant Aqua. Et aussi elle va avoir des expériences comme ça. On va découvrir aussi tout le côté SF de la série quoi. Par exemple, on apprend que pour que Mars soit habitable, t'as des espèces de personnes qu'on appelle des gnomes qui vivent dans les sous-sols de Mars. Et qui, en gros, leur rôle, c'est de contrôler la gravité de Mars avec des machines, etc., pour que les gens puissent vivre dessus. Et t'as d'autres personnes, par exemple, qui doivent gérer, qui gèrent le climat, etc. Bref, t'as vraiment tout un côté fantastique et tout un côté SF qui ajoute encore plus d'émerveillement qu'on peut déjà en avoir en visitant Venise, quoi. Comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment, mais vraiment, une série qui m'a fait chialer. Mais alors, mais j'ai une force. Je veux dire, t'as
Oh.
à peu près dans tous les, enfin, tous les 16 épisodes à peu près, j'étais là. En plus, la fin. Alors là, franchement, je crois que j'ai rarement autant chialé en matant une série. Mais c'est pas une série qui m'a fait chialer de tristesse, tu vois. C'est une série tellement tellement il y a du bonheur que t'en chiales quoi si tu veux. C'est vraiment c'est alors certes certains dans les critiques on pourrait peut-être dire que certains trouveront que c'est peut-être un peu trop gentillet quoi parce que vraiment je veux dire c'est sa vie à cette jeune fille c'est vraiment voilà quoi c'est le merveilleux quoi c'est une vie sans soucis quoi mine de rien bon ok il y a le stress des examens tu vois mais à part ça Parce que je précise, elle n'est pas encore, c'est pas encore une ondine confirmée. Hein, elle a des examens à passer, etc. Voilà. C'est vraiment une série qui sera peut-être un peu trop gentillette pour certains, mais moi, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est une série qui m'a fait chialer, mais qui m'a donné la banane. J'ai pas épilogué plus que ça sur les personnages parce que je veux vous laisser le plaisir de les découvrir. Mais vraiment, il y a un florilège de personnages super attachants qui ont vraiment tous une personnalité bien à eux. Pour le coup, on parlait de finale tout à l'heure. Et là, moi, sur le final, j'aimerais vraiment féliciter Kozue Amano et l'équipe de HAL Filmmaker qui ont adapté la série. Le final est juste. J'ai rarement vu un final aussi réussi, quoi. En général, tu vois, quand je finis une œuvre comme ça, j'ai toujours
Un argot.
un arrière-goût, ouais, une petite frustration ou quelle que soit la qualité de la fin. Hein, en général, il y a toujours, ça fait toujours un peu chier de quitter un univers, quoi, si tu veux.
Ouais.
Et là, ben, j'ai fini cette série, j'avais la banane, quoi. Et ça, c'est tellement unique que, voilà. Quoi qu'il en soit, vraiment, bon, le seul reproche que j'aurais, si, j'aurais quand même un reproche à lui faire à cette série, c'est que, alors, je précise, la série animée est divisée en 3 saisons et 2 OAV, et en fait, j'aurais un reproche à faire sur la dernière saison, la troisième donc, c'est que sur les 2 OAV, les 2 premières saisons, le côté fantastique, SF, etc., dont je vous ai parlé, est très présent. Mais par contre, sur la troisième, le côté fantastique et merveilleux disparaît totalement. Vraiment, tous les. Parce qu'il y a certains personnages et tout qui disparaissent, un peu mystérieux qui disparaissent et tout. Et franchement, moi, ça m'a. C'est pas que la troisième saison est mauvaise, hein. Attention, je ne dis pas du tout ça. C'est juste que, du coup, la troisième saison se focalise beaucoup plus sur les personnages. Et le problème, c'est que du coup, comme il n'y a pas de côté fantastique, j'ai peut-être moins transporté dans l'univers de Neovenedia. C'est pas que j'ai trouvé ça moins bien, mais ça m'a moins marqué, en fait, que vraiment la saison 1 et surtout la saison 2. Qui pour moi, vraiment, je vous le dis, il y a des moments, c'était très Miyazaki-esque, quoi. Et j'ai trouvé dommage qu'on ne retrouve pas ce côté-là dans la saison 3, même si, encore une fois, le final est absolument superbe, et j'ai chialé sur le final comme j'en ai rarement chialé. Voilà. Donc, pour résumer, Aria, un anime... qui a réussi son pari, à savoir prendre du plaisir sur des choses simples. Et vraiment, c'est ça tout le thème de ce machin. Et donc, pour terminer, Aria, un anime tellement beau que t'en chiales. Voilà, c'est tout.
Donc, si vous en avez marre un peu de cet univers violent qu'on voit dans tous les jeux vidéo, dans les films, dans le cinéma, à chaque fois les gens ils se tirent dessus, allez faire un tour du côté de Raya pour vous changer un petit peu les idées et vous transporter dans ce Venise futuriste de l'espace.
Ouais, et si je pouvais finir sur un petit troll quand même, parce que moi je suis pas aussi gentil que les jeunes filles d'Aria, n'est-ce pas? J'ai envie de dire que toutes ces personnes dans le monde du jeu vidéo qui nous parlent d'émotions, etc. Bah écoutez, messieurs, vous avez encore un long chemin à parcourir. Hein.
Est-ce que tu parles de David Cage?
Non, pas du tout.
Ah
Je ne parle pas du tout de David Cage, voyons. Je ne
je
parle pas du tout de Jello Machel, pas du tout. Non, franchement, messieurs, le niveau d'Aria, vous voyez, c'est la Tour Eiffel. Et vous êtes dans les sous-sols de la Tour Eiffel, vous voyez. C'est un tout autre niveau. Et franchement, bon courage, messieurs, hein, parce que l'émotion dans les jeux vidéo, il y a encore du taf. Bon, allez, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une série de podcasts grandiloquents, n'est-ce pas? On va bosser, je vous le dis, la semaine prochaine, ça va être du lourd, n'est-ce pas?
Ouais, bien sûr, j'espère que les heures sup sont payées.
Ah bon? T'es payé, toi? Oh merde!
Ciao,
Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine, jouez bien, rêvez bien, et surtout, regardez Aria, c'est vraiment une super série. Allez, ciao!
ciao!